Les quatrièmes nuits de la faune, 6 heures durant, vous donnent à entendre le gel et le dégel, les tourbières, les toundras, les glaciers et tout ce qui s'y agite ou provoque agitation. Des grimpées et des avalanches, des animaux totems, des soulèvements de calottes glaciaires, différents modes d'engourdissement et d'hibernation. En quelques oreillades, une nuit blanche, ululante, grondante, élante et halante. Rayés de la carte tout ce que vous savez du Nord, nous sommes tout simplement en dessous de zéro et tout juste au-delà de minuit.
Nous sommes tous des hyperboréens. Nous savons très bien dans quel éloignement nous vivons. Au-delà de la glace et de la neige, gît notre vie, notre bonheur, ainsi par les Zarathoustra. Oui, peut-être, sauf qu'ici et maintenant, on vous transporte dans le lointain, dans la grande nuit arctique, dans cet ailleurs qui est ici aussi. Dans un territoire où la nature sauvage pèse de tout son poids, où la frontière entre l'art et le jeu est ténue. Dans un va-et-vient entre ce qui s'offre et ce qui se cherche, à la mesure du monde. Laissez-vous donc porter par d'autres bruits, d'autres corps, à dormir debout, pour une excursion hors du temps, avec cette première heure pendant laquelle on risque de se confronter à quelques fondus déchaînés qu'on aurait oublié de cryogéniser.
C'est normal ? Non, ok, d'accord, c'est parti. Bon. Crise internationale. La Russie, dont les marchés financiers ont perdu environ 70% de leur valeur, est durement touchée par la crise. Reuters se fait l'écho du désespoir des fabricants de vodka qui ont vu leurs ventes divisées par 6 en un an. Ce sont plus de 8 millions de décilitres de vodka qui étaient empilés dans les réserves russes en ce début novembre, tandis que le taux d'intoxication à la vodka frelatée augmentait de quasiment 10%. Emploi. L'Allemagne manque cruellement de Père Noël, les centres de recrutement sont vides et les candidats qualifiés sont rares. Pour environ 60 euros par jour, il suffit pourtant seulement d'avoir l'air sympa, d'être un peu grassouillé, de tchatcher avec les gosses et de ne pas avoir de casier judiciaire. Seule contrainte, il est formellement interdit aux différents Pères Noël d'arriver en voiture sur leur lieu de travail. Santa Claus étant traditionnellement associé au traîneau et non à la Clio blanche de fonction. Lutte sociale. Sur le marché de Noël de Dresden, Blanche-Neige, qui est chanteuse le reste de l'année, s'est faite licencier après que les organisateurs aient découvert qu'elle avait posé nue sur la pochette de son CD. Le quotidien allemand Bild nous informe que les 7 nains se sont immédiatement mis en grève et menacent de démissionner si Blanche-Neige les paraît intégrer dans ses fonctions. Dans le même temps, un poste d'assistante du Père Noël lui a été offert au marché de Noël de la ville d'à côté. Insécurité. Selon le quotidien Inuit Nunatsiak, le ministre de l'Éducation va s'attaquer au problème de l'insécurité pour les élèves de plusieurs régions qui se font régulièrement attaquer en allant à l'école par les ours polaires du coin et envisagerait même la création d'un service de ramassage scolaire. Pour ne rien arranger à l'affaire, le ministère de la Santé canadien a dans le même temps appelé à faire échanger au plus vite les possesseurs d'une certaine marque d'aérosol à base de poivre ayant pour but de repousser les ours qui attaqueraient les promeneurs. Le mécanisme de déclenchement de cette sorte de gaz lacrymogène à ours ayant été jugé tellement peu fiable qu'il ne se déclenchait quasiment jamais. Écologie. Un jeune Népalais de 25 ans essaye de médiatiser son invention, des mini-toilettes portatives de moins d'un kilo pour les alpinistes. Pour ce faire, il est resté pas très loin de chez lui et a tout simplement gravi les 8850 mètres de l'Everest pendant un mois, et a par la même occasion rapporté une tonne de détritus, des morceaux d'hélicoptères et ainsi que des restes humains. En 2001, un syndicaliste espagnol avait prévu de faire la même ascension pour planter une pancarte réclamant l'instauration des 35 heures en Espagne, mais a dû renoncer au dernier moment à cause du mauvais temps. En revanche, il l'a plantée au point le plus au nord du pôle Nord et ainsi qu'en haut du Kilimanjaro. L'Espagne est quant à elle toujours aux 40 heures hebdomadaires. Cuisine. Cet hiver 2008 est particulièrement froid en Floride, ce qui pose de gros problèmes de santé aux iguanes de la région, qui plongent dans une sorte de coma dès qu'il fait moins de 5 degrés et du coup chutent des arbres. Kenneth Criscon du Muséum d'Histoire Naturelle de Floride recommande de ramasser ces reptiles congelés et inconscients et de tout simplement les manger. D'après lui, l'iguane sautée au beurre et à l'ail est excellent. Histoire. Der Spiegel nous apprend qu'entre la Norvège et le pôle Nord se trouve un immense cimetière à dinosaures. En 2006, rien qu'en 15 jours, les chercheurs ont trouvé les restes de 28 plésiosaures et ichthyosaures, et pas des moindres. Surnommé le monstre, l'un d'eux était une sorte de prédateur marin géant, grand comme un bus et avec des dents longues comme des concombres. Sécurité routière. En Norvège, de 5 à 6 élans sont tués chaque jour sur les routes, contre seulement 16 conducteurs en 5 ans dans les mêmes collisions. Aftenposten nous infirme donc que la sécurité routière va réorganiser les abords des routes pour tenter de limiter ces accidents, qui coûtent tout de même à chaque fois environ 25 000 euros à l'État. Sport. Le Spitsbergen Open est une compétition de golf en Norvège qui se passe par moins 30 degrés, à seulement 1000 km du pôle Nord. Vu la région, de gardes armés protégeront les participants en cas d'attaque d'ours polaires. Les organisateurs, quant à eux, imposent des lunettes teintées pour ne pas finir aveugle et recommandent des balles en couleur, ainsi que des clubs de golf en acier. L'habituel graphite ne résistant pas à cette température. 16 488, c'est le chiffre du jour, ainsi que le nombre de préservatifs commandés et reçus par une base de recherche en Antarctique, composée de 125 personnes, soit 132 capotes chacun. Le journal néo-zélandais The Press a été rassuré par le patron de la base. Durant les quelques semaines d'été, la base peut compter jusqu'à 1000 personnes. Sexe. Les hippocampes séchés, la corne de rhinocéros pilée, le velours de bois de renne, le pénis de phoque canadien et autres animaux utilisés pour leur pouvoir aphrodisiaque peuvent se détendre. The Independent, qui doit suivre les cours de la bourse, nous indique que le succès phénoménal du Viagra a fait s'effondrer le trafic de ces bestioles de 50 à 75% à la fin des années 90 pour être quasi nul ces dernières années. Les chercheurs norvégiens lancent un cri d'alarme. Les ours de l'Arctique deviendraient hermaphrodites. D'après eux, en 1998, jusqu'à 4% des oursons ont été touchés. Et la Stampa nous indique que la cause serait une substance à présent interdite mais toujours utilisée dans les sous-marins nucléaires, qui aurait une action similaire aux hormones féminines. Pareille mésaventure n'est pas arrivée à Tsuyoshi, sympathique ours polaire d'un zoo japonais pesant 200 kg, amené là pour se reproduire avec un autre ours femelle. Le fait est qu'il a passé pour un mâle pendant 4 ans, alors que c'était une femelle. C'est en observant Tsuyoshi uriner que les zoologistes se sont aperçus du problème. Le plan de reproduction est à présent suspendu. Et pour finir, une idée cadeau pour les fêtes. Pour environ 30$, The Koala Hospital en Australie propose d'adopter un koala. Vous ne recevrez pas l'animal lui-même par la poste, mais un certificat d'adoption, une photo, son histoire, des autocollants et un livre sur les koalas.
Façon grand-mère. Recette. Choisissez un beau chapon label rouge, élevé à la campagne et en semi-liberté, de façon à ce qu'il ait pu gambader. Garnissez-le d'une belle galette croustillante et bien dorée. Ajoutez un pot de beurre et saisissez au feu de bois. Ensuite, prenez un loup ni trop gras ni trop fin et laissez-le mijoter dans son jus. Entourez le chapon de belles noisettes fraîches, soigneusement cueillies dans les bois. Puis, pressez le loup et passez-le au grill à 200 degrés. Après une dizaine de minutes, ouvrez délicatement la porte du four, sortez le loup. Prenez une vieille dinde, ôtez-lui la peau, videz les abats et hachez-la menue. Farcissez le loup avec sa chair. Au moment de servir, incorporez de fines tranches de chapon grillé pour les fins de loup.
You've been following me through the woods. Je vais vous raconter l'histoire.
Il était une fille douce et tendre comme toi, tout aussi gentille, se promenait dans les bois. Et voilà soudain qu'en chemin elle aperçoit
le loup tragique comme il convient. Et le loup, ce seront trois corps.
Le soleil est si fort,
viens me voir.
Ne reste pas là dehors,
viens me voir.
Viens te mettre à l'abri,
viens me voir.
Viens te mettre à l'ombre ici,
viens me voir. Viens vite voir le loup, viens vite. Tu me rends fou, viens vite voir le loup, viens vite. Tu me rends fou.
Ouh, cha 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 du loup. Ouh, cha 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 du loup. Cha cha du loup.
The Big Bad Wolf passe.
La glace est de retour avec mon invention nouvelle. Quelque chose saisit une prise de moi étroitement. Alors je coule comme un harpon de nuit et quotidiennement. S'arrêtera-t-il jamais? Yo, je ne sais pas. Arrêtez les lumières et la lueur, malade. À l'extrémité, basculer un mic comme un vandale. Allumer une étape et cirer un idiot comme une bougie. Danser, flâner des précipitations, le haut-parleur qui gronde. Glace la vanille de bébé de glace. Vanille de bébé de glace, de glace. Glace la vanille de bébé de glace. Vanille de bébé de glace, de glace. Glace la vanille de bébé de glace. Vanille de bébé de glace, de glace. Glace la vanille de bébé de glace. Vanille de bébé de glace, de glace. Ondulant, juste à la parole. Salut, vous êtes-vous arrêté? Non. J'ai juste conduit prêt, continuer à la poursuite au prochain arrêt. J'ai éclaté une gauche et se dirigeant au prochain bloc, ce bloc était mort. Glace la vanille de bébé de glace, vanille de bébé de glace, de glace. glace la vanille de bébé de glace. Vanille de bébé de glace, de glace. Glace la vanille de bébé de glace. Vanille de bébé de glace, de glace. Glace la vanille de bébé de glace. Vanille de bébé de glace, de glace. Glace la vanille de bébé de glace. Vanille de bébé de glace, de glace. Glace la vanille.
Bon, fuck it.
Non, mais ce qui serait super, c'est que je m'en aille.
Tout en haut de la montagne, où le ciel est tout en fleurs, enfermé dans un nuage, tu verras.
Il était venu de son pays de neige, tout droit vers le sud, sans presque s'arrêter. Mon Dieu, que c'est loin de la Norvège, la Méditerranée.
Ensuite, Ice Bar, un titre qui a vu le jour un peu avant les années 80, quand la New Wave faisait des vagues et vénérait le synthétiseur, quand les chanteurs prenaient des pauses imprécises et se souciaient à peine du froid et de l'obscurité. Ice Bar par Grauson, un groupe composé du petit frère de Stéphane Escher et Stéphane Escher lui-même, qui à 18 ans et bien avant de vouloir déjeuner en paix, aspirait à devenir un ours polaire. Il sera malgré lui suivi de tout près d'un traîneau, celui de Rudolf, le renne au nez rouge.
Thank you. Rudolph the Red-Nosed Reindeer had a very shiny nose.
Rudolph the Red-Nosed Reindeer had a very shiny nose, and if you ever saw it, you would even say it glows.
Sleigh tonight.
You know Dasher and Dancer and Prancer and Vixen, Comet and Cupid and Donner and Blitzen, but do you recall the most famous reindeer of all? Rudolph the Red-Nosed Reindeer had a very shiny nose, and if you ever saw it, you would even say it glows. All of the other reindeer used to laugh and call him names. They never let poor Rudolph join in any reindeer games. Then one foggy Christmas Eve, Santa came to say, Rudolph, with your nose so bright, won't you guide my sleigh tonight?
Rudolph, with your nose so bright, won't you guide my sleigh tonight? Then how the reindeer loved him as they shouted out with glee. Rudolph, the red-nosed reindeer, you'll go down in his story.
From France, two-time Olympic medalist Philippe Candelero.
ゲストスケーター、あのキャンデロロが登場してまいりました。また個性的なこの衣装に身を包んで、まずはこの大声に応えます。さあ見せてくれるでしょう。フィリピ・キャンディローロ、メイビーアイメイビー。
After, bon, I skate. I need just to do some triple jump more when my back will be better. And then it's a good number, I think. I'm very happy because he's worked good.
How does it feel to start your year in Japan?
Well, actually, yeah, we are January 7th or 6th today. January 6th, I think it's a happy new year for you. So we can say happy new year till the 7th, right? So happy new year to all Japanese from Tokyo TV. And I'm very glad to be here with you again.
このキャンデロの選手もこうやってお客様と一緒に滑るというのは V 中の特技ですからね。
Un jour, au temps où les hommes sur les pâturages de la terre n'avaient pas encore dressé leur campement, dans la plus haute chambre du palais d'Asgard, la cité des dieux, une femme apparaît devant Odin, le maître des héros. Elle est hallucinée, échevelée, terriblement superbe. Elle est venue révéler en secret pour Odin seul, dans le langage des rêves, le destin du monde.
Il est évident que cet animal possède certaines facultés d'adaptation. De là à le trouver intelligent.
Elle dit ceci.
Ce petit animal domestique que vous caressez.
Écoute, voici ce que je vois. D'abord, avant la naissance des hommes, les dieux s'assemblent sur la terre pour donner leur nom à la nuit, au matin, au midi, au crépuscule, au jour de la semaine et au mois de l'année. Puis, sur les vastes prairies, ils élèvent des maisons, des ateliers, des forges où ils façonnent des outils d'or, des charrues. Ainsi commence le temps. Le cœur du monde se met à battre. Alors apparaissent trois filles géantes. Elles viennent de la lointaine contrée où l'océan atteint les bords de la terre. Ces trois géantes, on les appelle les Nornes. La première sait tout du passé. La deuxième sait tout du présent. La troisième sait tout de l'avenir. Le temps des hommes est désormais venu.
Contrairement aux prévisions, l'usine qui dans notre Uva de Goam fabrique des éléments.
Les dieux font naître le premier couple humain d'un arbre gigantesque. Son feuillage couvre l'univers. Dans son tronc est une grande salle voûtée. C'est la demeure des trois géantes, les Nornes. Sous la première racine de cet arbre se trouve le monde des morts. Sous la deuxième racine, le monde des géants. Sous la troisième racine, dort un serpent. À la cime de cet arbre vit un aigle prodigieux. Entre ses yeux, un faucon veille jour et nuit. Les hommes, les peuples, les empires habitent dans cet arbre, mais ils l'ignorent. Les hommes imaginent un univers à leur dimension minuscule. Ils se trompent, ils ne savent pas que leur planète n'est qu'un fruit de l'arbre de la création. Ils ne savent pas que les autres planètes et les étoiles qu'ils voient dans le ciel ne sont que d'autres fruits de l'arbre de la création. Ils ne savent pas imaginer la taille de cet arbre, pas plus qu'une fourmi ne peut savoir les dimensions du soleil. Mais ils vivent, les hommes. Ils travaillent, rêvent, voyagent, se battent. Ils écrivent des livres et construisent des mondes. Ils défient les dieux parfois, ils leur déclarent des guerres insensées, ils les perdent. Les dieux règnent sur toutes les planètes où vivent leurs créatures. Mais ils ont perdu leur bonheur premier, la paix des premiers temps, car on ne règne jamais sans douleur, sans fatigue, sans hargne. Non, les dieux ne vivent pas en paradis. Les dieux souffrent, eux aussi. Le temps passe avec ses longs cortèges de vivants. Passe le temps des haches d'abord, puis le temps des épées, puis la saison des tempêtes, puis la saison des loups. Alors vient le crépuscule des mondes. Un coq à crête d'or réveille les héros. Un autre coq, couleur de rouille, réveille les morts. Un autre encore réveille les géants enfouis sous la deuxième racine de l'arbre. Ce jour-là, Fenrir, la bête de l'Apocalypse, le loup fabuleux que les dieux ont enchaîné au premier temps du monde sur une île lointaine et qui ronge depuis ce temps la corde magique qui le tient prisonnier, Fenrir se libère enfin, brise son entrave, bondit dans le ciel, ravage Asgard, la cité des dieux, et fait un carnage de ses habitants. Les dents rouges, les babines sanglantes, il se couche enfin sur une montagne de ruines et de morts. Alors le navire des enfers lève l'ancre. Navgar, tel est le nom de ce navire. Il est immense et brumeux. Savez-vous de quelle matière il est fait ? Il n'est pas de bois ni de fer. Il fut bâti avec les ongles des morts. Avec tous les ongles de tous les morts de l'univers, on a fait ce bateau, sa coque, ses mâts, ses voiles grinçantes. Ce bateau emporte les vivants. Alors les géants, surgis du fond de l'univers, escaladent l'arc-en-ciel et déclarent la guerre aux dieux. Mais l'arc-en-ciel se brise sous leur poids. Ils tombent en désordre. Le fracas de leur chute fait trembler la terre et réveille les volcans, et réveille le serpent endormi sous la troisième racine de l'arbre. Ils se dressent, ils livrent bataille à Thor, le dieu suprême. D'épouvantables tempêtes de sang pendant 9 jours et 9 nuits s'abattent sur l'univers tant ce combat est féroce. Les planètes tourbillonnent, ciel et terre, soleil, lune, étoiles, lumière et ténèbres sont confondues. Celui qui pourrait voir ne verrait partout que couleur de sang. Au bout de 9 jours et 9 nuits de combat, Thor enfin parvient à écraser sous son poing la tête du serpent. Alors, l'univers s'apaise. Dans la vaste prairie du monde, les dieux paisibles reviennent comme ils étaient venus au premier temps. Ils semblent se réveiller d'un long cauchemar, mais dans l'herbe verte du pâturage, cette fois, ils découvrent les pièces d'un jeu d'échecs dispersé. Qui a joué et contre qui? Les dieux eux-mêmes ne le savent pas. Ils construisent à nouveau des maisons, des ateliers, des forges. Ils fabriquent des outils d'or, des charrues. Le soir, devant le feu, ils parlent des batailles passées. Et ils disent que bientôt, peut-être, des hommes nouveaux reviendront au monde. Et tout recommencera.
Okay, Charlie, settle down now.
Thou shalt have no other gods before me.
That's exactly right, Charlie. Thou shalt have no other gods before me.
různých nevodivých materiálů, například dřev.
Now I lay me down to sleep. I pray the Lord my soul to keep. The angels watch me through the night until I wake in morning light. Amen.
Once I was a little boy, I had a rubber toy. Oi, 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 what a toy! I opened up its lips and spat in lots of pips. Now my toy is full of forest. Oi, 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 a forest for a toy. What a lovely toy for a very little boy.
Operated boy sitting on the shelf. He is just a toy, but I turn him on and he comes to life. Automatic joy, that is why I want a coin operated boy. Made of plastic and elastic, he is rugged and long lasting.
Les petites mélodies entêtées des camions de glace reconvertis en ghetto blaster dans les rues de New York viennent de nous déposer à deux pas du vélodrome, où M. Ken Butler s'amuse lui aussi avec tout ce qui lui tombe entre les mains,
et invente des instruments hybrides à partir d'objets au potentiel insoupçonnable. Parmi ses expériences de bricolage qui lui ont valu des amitiés avec John Zorn, Laurie Anderson ou Butch Morris, on trouve notamment une pièce jouée sur une crosse de hockey transformée pour l'occasion en guitare. Ice on the Velodrome nous emmène, et c'est le moins qu'on puisse dire, vers un autre monde où se trouve peut-être déjà Anthony and the Johnson, à condition bien sûr que l'on survive à la rencontre avec la dame blanche d'Anna Cavan sur la route.
Thank you.
A handful of small white stone hit the windscreen, making me jump. It was so long since I had experienced winter in the north that I failed to recognize the phenomenon. The hail soon turned to snow, diminishing visibility and making driving more difficult. It was bitterly cold, and I became aware of a connection between this fact and my increasing uneasiness. Suddenly, my anxiety was so acute that I wanted to turn and drive back to town. But the road was too narrow. I was forced to follow its interminable winding up and downhill in the lifeless dark. The surface got worse. It got steeper and more slippery all the time. The unaccustomed cold made my head ache as I stared out, straining my eyes in the effort of trying to avoid icy patches where the car skidded out of control. When the headlights slid over road sign runes from time to time, the brief glimpse always surprised me and vanished before I was sure I'd really seen it. An unearthly whiteness began to bloom on the hedge. I passed a gap and glanced through. For a moment, my lights picked it out like searchlights. The girl's naked body, slight as a child's, ivory white against the dead white of the snow, her hair bright as spun glass. She did not look in my direction. Motionless, she kept her eyes fixed on the walls, moving slowly towards her. A glassy, glittering circle of solid ice, of which she was the center. Dazzling flashes came from the ice cliffs far over her head. Below, the outermost fringes of ice had already reached her, immobilized her, set hard as concrete over her feet and ankles. I watched the ice climb higher, covering knees and thighs, saw her mouth open, her black hole in the white face, heard her thin, agonized scream. I felt no pity for her. On the contrary, I derived an indescribable pleasure from seeing her suffer.
Can go. I'm gonna miss the sea. I'm gonna miss the snow. I'm gonna miss the bees. I miss the things that grow. I'm gonna miss the trees. I'm gonna miss the sound. I miss the animals. I'm gonna miss you all. I need another place. I need another world. This one's nearly gone. I'm gonna miss the birds singing all their songs. I'm gonna miss the wind been kissing me so long.